da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Radoiu și vă propun să vorbim astăzi despre cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Conferințe despre lumea în care trăim. Festivalul se va desfășura pe 10, 11 și 12 mai la Ateneul Român, unde vor veni Agnes Arnold Foster, Jean-François Bronstein, Oliver Jens Schmidt, Viorica Marian, Horia Roman Patapievici, dar și partenerilor de dialog Alexandra Furnea, Marian Voicu, Cristian Leonte, Cătălin Ștefănescu și Gabriel Liceanu. Biletele pentru accesul în sala Ateneului, cele pentru vizionarea online a evenimentului și abonamentele care permit participarea la toate conferințele acestei ediții sunt disponibile pe platforma Eventbook. La fel ca în edițiile precedente, acest eveniment își propune să aducă în fața publicului teme actuale abordate de personalități publice, specialiști și cercetători recunoscuți în domeniile lor și de comunitățile științifice din care fac parte. Evenimentele vor fi prezentate de jurnalistul cultural și realizatorul TV Marius Constantinescu. Sâmbătă 10 mai de la ora 16, Mișcarea WOC, începutul sfârșitului, o conferință susținută de Jean-François Bronstein, urmată de un dialog cu Marian Voicu. Jean-François Bronstein este profesor de filozofie contemporană la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, unde predă cursurile de istoria științelor, filozofia medicinei și etică medicală. Printre titlurile sale se numără L'histoire des sciences, méthode, style et controverse, La philosophie de la médecine d'Auguste Comte, Vache carnivore, Vierge mère et mort vivant, La philosophie devenue folle, Le genre, l'animal, la mort, apărut la Grasset în 2018 și în curs de traducere la editura Humanitas, și bestsellerul Religia woke, apărut la Grasset în 2022, tradus deja în mai multe limbi și publicat în 2023 la editura Humanitas. Îl ascultăm pe Jean-François Bronstein.
Le livre est paru il y a 3 ans et j'avais déjà écrit auparavant un autre livre qui s'appelait La philosophie devenue folle, où je parlais déjà de ces théories philosophiques qui envahissaient, si je puis dire, les universités depuis bien longtemps, notamment la théorie du genre dont je parlais déjà, les questions d'euthanasie, d'animalisme, etc. Mais c'était des choses assez théoriques et après il m'a semblé utile d'écrire quelque chose sur ce courant woke qui commençait à prendre, qui avait déjà pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis et qui commençait à arriver en France, parce que je trouvais que ça allait contre la plupart des valeurs auxquelles je tiens, que ce soit l'argumentation rationnelle, que ce soit l'universalisme, que ce soit les critiques de la science que je n'acceptais pas. Et donc j'ai essayé de présenter ça, et pourquoi j'ai gardé le terme de woke, parce qu'on dit souvent que c'est un terme marqué par l'extrême droite, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas. Le terme woke a d'abord été employé par les gens qui se proclament woke, enfin qui maintenant ne veulent plus être appelés woke, mais qui le sont néanmoins. Par exemple, Black Lives Matter, après la mort de George Floyd, a fait un film qui s'appelait Woke, Stay Woke, etc. C'est un terme très courant dans l'argot noir américain qui veut dire conscientiser d'une certaine manière, être concerné de la justice sociale. Et donc j'ai gardé ce terme parce qu'il me semble qu'il décrit bien un état d'esprit qui est celui d'un éveil vraiment nouveau. Enfin, il s'agit de quelque chose de, c'est pas des petits changements, on sort, si vous voulez, du domaine strictement politique, social, etc. Parce que ces idées woke, c'est vraiment une nouvelle vision du monde. Et je trouve que le terme d'éveil est bien choisi. C'est eux qui l'ont choisi, mais il est bien choisi, puisque ça renvoie effectivement à quelque chose comme une vision complète, radicalement nouvelle du monde. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai gardé ce terme. Par ailleurs, ça fait allusion dans la tradition américaine à ce qu'on appelle les grands réveils religieux protestants du 18e et 19e siècle, où il y a aussi cette idée effectivement d'une grande mouvement très de grandes émotions, avec la volonté de séparer les purs et les impurs, et de retrouver un sens religieux à la vie. Donc c'est pour ça que j'ai gardé aussi, enfin que j'ai employé le terme de religion, alors pas au sens, en un sens effectivement plutôt négatif, mais c'est l'idée effectivement que Il y a effectivement des prosélytes, c'est les militants woke sont très prosélytes. Ils font référence à une série de textes sacrés, les grands textes de Judith Butler et d'autres. Ils veulent annuler leurs adversaires, donc il y a l'idée que de canceller les adversaires et donc ne pas donner la parole à ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Donc il y a un refus vraiment de la discussion qui est très très effrayant, hein, si je puis dire. Bon, par exemple, je cite dans mon livre un universitaire américain qui essayait d'argumenter, de discuter avec des militants woke. À ce moment-là, ces jeunes militants lui disent « arrête d'argumenter, la logique c'est raciste ». Donc la logique c'est raciste, ça veut dire que on ne peut pas discuter, il n'y a pas d'argument qui tienne. C'est pour ça que j'ai pris ce terme de religion woke, effectivement. Alors, d'une certaine manière, beaucoup d'historiens américains des religions ont insisté aussi là-dessus, avec l'idée que peut-être c'est effectivement même une religion dans un sens plus précis, puisqu'il y aurait un péché originel dans cette religion, qui est le fait d'être blanc. Le péché originel, c'est la blanchité, comme ils disent, c'est le fait d'être blanc. Et donc, c'est un péché originel, mais dont on ne peut pas vraiment se faire pardonner. D'une certaine manière, c'est une religion très pessimiste. Voilà. C'est pour ça que j'ai employé ce terme de religion. Je pense que ça décrit bien, en tout cas, l'ambiance qui était celle et qui est encore en France celle de certaines universités où effectivement tout débat est impossible. Et bon, le résultat, c'est qu'effectivement, je me suis complètement interdit de parole dans mon ancienne université parce que mes collègues de 40 ans ne peuvent pas accepter que j'ai émis la moindre critique à l'égard de ces doctrines.
Donc ça se passait en France ou aux États-Unis ?
Ça se passait d'abord aux États-Unis, et là, maintenant, ça se passe beaucoup en France, en particulier dans les facultés de lettres et sciences humaines, même si, effectivement, ça commence à pénétrer dans certaines facultés de sciences, de droit, etc., ou de médecine même. Donc il y a pas mal de dissidents, si j'ose dire, qui, effectivement, sont des médecins ou des biologistes qui ne supportent pas que on fasse passer des critères de race, de genre, etc., au lieu de critères de mérite dans les recrutements, dans le fonctionnement de l'université, théoriquement.
Donc, on va essayer de comprendre avec vous quels sont les thèmes et pourquoi c'est tellement difficile de trier, tirer une ligne entre ce qui est vrai, ouais, et ce qui mérite d'être gardé et ce qui est complètement un dérapage intellectuel.
Oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'effectivement, a priori, ce sont des combats qui sont tout à fait légitimes. Et moi aussi, à première vue, je me suis dit, ils sont antiracistes, ils sont contre les discriminations liées au genre, ils sont contre les discriminations liées à des critères sociaux, etc. Le problème, c'est que c'est tout le contraire, c'est-à-dire que ça conduit à des positions absolument opposées. Par exemple, c'est très évident dans le cas de l'antiracisme woke, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie critique de la race, hein, qui est une doctrine maintenant enseignée dans les universités américaines, mais aussi en France, puisque pour les antiracistes woke, il faut toujours considérer la race, c'est-à-dire il faut sans cesse regarder quelle est la race, donc la couleur de peau des personnes qui sont en face de vous, pour discriminer contre les discriminations. C'est-à-dire que si vous dites une phrase qui est la phrase, je dirais, la plus élémentaire, celle que je prononcerai toujours très volontiers, je me moque que vous, mes étudiants, vous soyez noir, jaune, blanc ou vert, c'est pas le problème. Ça, pour les woke, c'est une phrase extrêmement raciste parce que ça veut faire comme s'il n'y avait pas des discriminations toujours à contrecarrer, vous voyez. Et donc, le problème de ces théories critiques de la race, c'est qu'elles obligent les gens à sans cesse revenir, à ne regarder que la race. Ils vont très loin, puisqu'ils critiquent même explicitement souvent les propos de Martin Luther King, c'est la fameuse phrase de Martin Luther King, je fais un rêve que mes petits-enfants seront considérés pour leur caractère et non pas pour leur couleur de peau, pour eux, c'est quelque chose de raciste. Alors ça qui est très étonnant, et c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à tout ça, c'est qu'en fait, ceux qui sont d'ailleurs les plus critiques de cette théorie critique de la race aux États-Unis, ce sont souvent des universitaires noirs ou latinos qui, effectivement, ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'ils sont toujours des victimes, qu'ils sont victimes d'un racisme systémique, qu'ils n'ont aucune chance de d'échapper à leurs conditions, etc. Et donc, c'est une notion très pessimiste, en gros. Je veux dire, on peut voir ça sur le cas de la théorie critique de la race, mais on peut le voir sur d'autres domaines. Bon, en gros, je dirais, pour résumer ce que j'appelle les quatre théories principales du wokisme, c'est effectivement la théorie du genre, donc l'idée que, effectivement, ce qui compte, c'est la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre, et non pas le sexe biologique, qui, d'une certaine manière, n'existe pas ou est un résultat du genre. Ça, c'est la première théorie, la théorie du genre. La deuxième théorie, c'est celle dont on a parlé, c'est la théorie critique de la race, c'est-à-dire toujours considérer la race et ne jamais penser que l'on peut faire abstraction de la race. Donc, c'est une théorie effectivement discriminante. La troisième théorie, c'est la théorie plus politique de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, qui là aussi peut sembler positive, c'est-à-dire il y a l'idée qu'effectivement, on peut être victime d'injustices qui se potentialisent, c'est-à-dire qu'on peut, si on est femme, lesbienne, noire, etc., on est victime au carré ou au cube, hein, d'une certaine manière, on est victime à un point très important, sauf que, on peut appeler ça en français, si je puis dire, la convergence des luttes. Mais le problème, c'est que ça donne une vision du monde qui est entièrement victimaire. Il n'y a que des victimes et des coupables. Ce qui amène des coalitions bizarres où on voit effectivement les LGBTQ, etc., soutenir le Hamas parce que tous sont des victimes. Alors, il s'agit de trouver qui est la victime la plus éminente. Et quatrième théorie, je pourrais revenir après sur chacune de ces théories, la quatrième théorie, c'est la théorie qu'on appelle l'épistémologie du point de vue, qui est beaucoup moins connue, mais qui, à mon avis, est la plus destructive, si vous voulez. C'est l'idée qu'en fait, il n'y a pas de science objective, la science est toujours faite d'un certain point de vue, et donc il faut opposer à la science les savoirs des dominés. La science occidentale, ce serait une science de blanc, colonisateur, etc. Et il faudrait y opposer des savoirs des dominés. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a plus de vérité. Et il n'y a plus de vérité. Il y a des sciences bourgeoises. Enfin, il y a par exemple la biologie, pour eux, c'est une science, c'est une discipline viriliste. Il faut opposer à ça une discipline qui serait faite par les femmes, gynocratique ou gynocentrée, etc. Et donc, ça rappelle bien sûr, pour les plus anciens d'entre nous, l'opposition stalinienne entre science bourgeoise et science prolétarienne. Donc, il n'y a plus de vérité. Et ça, c'est un point très, très étonnant parce qu'ils font des épistémologies, donc des philosophies des sciences, qui expliquent qu'il n'y a pas de science possible. On ne pourra jamais arriver à une vérité. Ils opposent donc des savoirs des dominés aux savoirs des dominants. Donc, c'est quelque chose de très, très étonnant. Donc, grosso modo, si vous voulez, sur chacun de ces sujets, je trouve qu'il y a des dérapages. Par exemple, c'est vrai qu'en science, c'est vrai qu'il y a un point de vue, il y a des biais dans la connaissance scientifique, mais le but du scientifique, c'est d'essayer d'effacer ces biais pour arriver à une vérité la plus objective possible, même s'il y a une histoire de la vérité. Et donc là, on dérape complètement pour dire qu'il n'y a pas de science. Sur cette histoire sur la théorie du genre, bien sûr que il y a des aspects culturels dans l'identité masculine ou féminine, mais ça tout le monde le sait depuis des sociologues comme Marcel Mauss, on sait qu'il y a des techniques du corps, mais là l'idée c'est de dire non seulement qu'il y a du culturel dans le corps, ça c'est vrai, mais ça veut dire que la culture est plus importante que la nature et qu'on peut transformer le corps à volonté, ce qui est une absurdité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que chaque cellule est marquée masculine et féminine, et donc on ne peut pas changer vraiment de corps, quoi. Donc ça, c'est là aussi, on parle d'un sentiment, d'un constat qui n'est pas idiot, c'est-à-dire l'idée que chacun effectivement peut choisir aussi faire ce qu'il veut de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut très bien, un adulte éclairé peut faire bien sûr ce qu'il veut de son corps. Par contre, lorsqu'on enseigne à des enfants ce qu'on a fait aux États-Unis, ce qu'on fait quelquefois aussi en France aussi, que leur genre est au choix, que c'est à eux de déterminer quand ils le voudront leur genre, c'est quelque chose qui ne va pas du tout, parce que là, on crée une espèce d'appel d'air pour des gamins, des adolescents, ou des adolescents plutôt, qui se sentent mal dans leur peau, mal dans leur corps, et qui vont se dire « Ah, je dois être 30 ans, je suis né dans le mauvais corps. Bon, on n'est jamais né dans le mauvais corps, puisque c'est très bizarre, c'est une théorie métaphysique qui voudrait qu'il y ait une conscience comme ça qui tombe dans les corps. Bon, ça fait même penser à des vieilles histoires religieuses comme la gnose, hein, cette idée que le corps, c'est pas important, ce qui compte vraiment, c'est l'âme ou c'est la conscience. Donc on en arrive à des choses derrière des. C'est ça, et vous avez tout à fait raison. Moi aussi, je suis parti, disons, d'un point de vue intéressé. Je me dis, bon, c'est intéressant tout ça, mais quand on voit les conséquences, on voit que les meilleures idées dans ce cas-là, les meilleurs sentiments mènent quelquefois à des conséquences complètement contre-productives. C'est-à-dire, on réintroduit la notion de race, on rend des gamins mal dans leur peau, on leur fait croire qu'ils sont effectivement victimes de tel ou tel type de maladie psychiatrique, etc. C'est tout à fait contradictoire. Alors, aux États-Unis, ça se fait même dans les classes, etc. Mais en France, par exemple, il y a des associations qui interviennent dans les collèges et les lycées, ou les écoles même, et qui disent, par exemple, à des enfants... j'ai eu l'exemple, c'était connu dans un lycée parisien très, très privilégié, l'école alsacienne. Une association militante vient dire à des gamins qui ont 12-13 ans, ou des gamines qui ont 12-13 ans, si vous êtes mal dans votre peau, donc tous les ados sont mal dans leur peau, tous les ados s'interrogent sur leur sexualité, sur leur personnalité, etc. Cette association a dit, bah, c'est sans doute que vous êtes transgenre. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, les gamins se disent, ah ben, bah, sans doute, je suis mal dans ma peau, donc je suis sans doute transgenre. Et ça a un effet très catastrophique aussi sur les gamins qui sont autistes, sur les adolescents autistes, qui ont justement du mal à savoir ce qu'ils sont. Hein. Et il y a une grande surreprésentation des autistes chez les transgenres. Et donc, c'est quelque chose qui, en plus, est très connu chez les historiens de la médecine. C'est-à-dire que quand on crée des nouvelles catégories nosographiques, des nouvelles maladies, il y a des gens en particulier dans le cas des maladies mentales, il y a des gens qui disent « Ah, ben ça doit être pour moi, je ne suis pas bien dans ma peau, donc c'est que je dois être transgenre. » Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mal, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des problèmes psychologiques ou psychiatriques, mais on fabrique finalement des gens, et donc d'où l'explosion de cette catégorie de transgenre qui n'existait que c'était rarissime dans l'histoire de la médecine, et depuis quelques années, notamment chez les jeunes filles adolescentes, ça a explosé, d'autant que ça rend extrêmement populaire dans les lycées et collèges autres, parce qu'on devient effectivement une victime. C'est souvent d'ailleurs des jeunes filles sérieuses, un peu effacées, qui n'ont rien de victimaire, d'une certaine manière, de bonne famille, qui, en cliquant sur Internet sur « je suis en train de faire une transition de genre », vont devenir des victimes parfaites et vont avoir des milliers de followers, vont devenir très, très populaires dans leur lycée, etc. Et donc là aussi, c'est en partant de l'idée qu'effectivement, dans certains cas, il peut y avoir des enfants qui... sont en désaccord avec leur corps, etc. Ça a fabriqué des centaines et des milliers de jeunes filles, surtout, parce que c'est maintenant surtout une maladie de filles, alors que c'est avant une maladie de garçon de 4-5 ans, et avec des traitements médicaux, chirurgicaux, etc. Alors les choses commencent à bouger là-dessus, heureusement, depuis qu'il y a un rapport l'an dernier en Angleterre qui explique que tous ces traitements médicaux et chirurgicaux n'apportent aucun bénéfice. Donc la plupart des pays font marche arrière, mais pour l'instant, pas encore la France et pas encore certains États, les États-Unis qui résistent, etc.
Pourquoi ces idées sont perpétrées par des jeunes blancs qui viennent des milieux aisés?
Oui, ben, vous avez tout à fait raison. C'est une religion d'élite, c'est les religions des élites de la côte des grandes universités américaines traditionnelles. Parce que d'une certaine manière, il y a un jeune chercheur issu d'un milieu extrêmement pauvre qui a fait des études grâce à l'armée, etc., qui a parlé à ce sujet de croyances de luxe. C'est une idée assez intelligente. C'est-à-dire que finalement, professer des idées comme ça très bizarres du style je suis tombé dans le mauvais corps, ou alors au point de vue politique, par exemple, il faut définancer la police, ça veut dire que pour définancer la police dont il parle, c'est un slogan vraiment que ne peuvent tenir que les fils de famille qui ne prennent jamais le métro, qui vivent dans des maisons, dans des résidences gardées, qui ont éventuellement un service de sécurité privé, etc. Et donc, en disant ça, ils disent effectivement, nous avons de bons sentiments, etc. Et donc, il y a vraiment l'idée de faire un affichage comme ça de bons sentiments, mais dans la mesure où ça ne coûte rien. Ou alors, il prend l'autre exemple, il dit, une de ses copines à Yale, d'une très bonne famille américaine, dit, le mariage monogame s'est dépassé. Et puis, il lui demande, mais toi, tu vas te marier. Et effectivement, elle se marie, mais c'est dépassé. Et pratiquement, ce qui se passe, c'est que ces idées, croyances de luxe, vont descendre, si je puis dire, dans les milieux pauvres noirs américains, où la famille va être complètement explosée. Il n'y aura plus de famille monogame, au grand détriment des pauvres blancs ou noirs dans ces familles complètement abandonnées, si je puis dire. Et donc, c'est vraiment une idée de c'est une religion des élites, et c'est très étonnant d'ailleurs de voir que ceux qui résistent le plus, notamment on l'a vu aux États-Unis, c'est effectivement les hommes ordinaires, enfin, c'est les hommes qui ont encore un contact avec la réalité. Je crois que de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a noté, beaucoup de gens ont noté que après le Covid, il y avait une espèce de flambée de ces idées woke, ce qui ne me semble pas tout à fait, pas absurde du tout, puisqu'effectivement, on a vécu pendant des mois sur Internet. Et donc, si on vit sur Internet, on croit effectivement que, par exemple, on peut changer de genre sur un simple clic. C'est le seul endroit au monde où on peut effectivement changer de genre très facilement, c'est dans le monde virtuel. Et effectivement, les gens du monde réel, si je puis dire, ceux qui ont continué à travailler, à livrer les produits de première nécessité, etc., eux, ils savent bien que il y a une différence des sexes, il y a deux sexes qui sont différents, etc. Et donc, je pense que c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que aux dernières élections américaines, Trump soit beaucoup servi de ces questions woke, parce que effectivement. Les gens ordinaires savent bien qu'il y a deux sexes. Donc, l'idée que le sexe est au choix et que le genre est au choix, c'est une idée qui est quand même très... Il faut vraiment être coupé de la réalité pour affirmer ce genre de choses. Et puis, il faut être coupé aussi de la science, parce qu'il faut ne penser qu'effectivement, tout devient subjectif, si je veux dire. Donc, c'est très, très étrange, effectivement.
Est-ce que vous pensez que c'est une question de génération ?
Je pense qu'il y a effectivement alors, des continuités entre les générations, parce qu'il y a des gens de notre génération, puisqu'on est plus ou moins de la même, même si je suis un peu plus âgé, je crois, mais qui se sont, des vieux 68ards, les derniers 68ards de l'université, se sont ralliés à cela en croyant retrouver leur jeunesse, leur combat, etc. Mais je pense que c'est tout à fait différent. Et il me semble qu'il y a quand même derrière tout ça, chez les jeunes, une espèce de grande inquiétude, une grande anxiété, une panique mentale ou morale qui fait qu'effectivement, ils ne voient plus le monde comme quelque chose de plein d'opportunités, etc. Mais ils sont beaucoup plus inquiets d'une certaine manière de ce qui se passe. Et on le voit, il y a une énorme crise, en tout cas dans les pays occidentaux, une énorme crise psychologique chez les adolescents. Donc il y a un nombre extrêmement important de jeunes gens et de jeunes filles en particulier qui sont en malaise, en souffrance psychologique ou psychiatrique. Et donc, c'est vrai que ça a quelque chose à voir. Et de ce point de vue-là aussi, l'anxiété écologique et la baisse, l'espèce d'hiver démographique qui s'abat sur beaucoup de pays occidentaux, dit bien que c'est quelque chose de très, très spécial. Hein. Et je pense qu'effectivement, ça marche bien, comme vous dites, dans la jeunesse, des universités d'élite, et ça marche beaucoup moins bien, effectivement, dans les autres classes d'âge et dans des milieux moins favorisés. Mais le problème, c'est que si ça ne touchait que ces universités, ça serait pas si grave que ça. Mais le problème, c'est que maintenant, la plupart, beaucoup de métiers sont formés à l'université, sont les métiers de la connaissance, etc. Et donc, les gens qui sortent des universités, qui travaillent dans les médias, dans la culture, dans les écoles, dans les lycées, etc., sortent avec ces idées assez profondément ancrées et essaient de les répandre autour d'eux. Alors, on peut, l'hypothèse optimiste que font certains, c'est de se dire, c'est un phénomène de mode, donc il suffira que ce soit un moment posé et qu'on dise, c'est ringard de croire qu'il y a des, que le genre est au choix, c'est ringard de penser que le racisme est systémique, et peut-être que ça va s'effacer d'un coup. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Je pense que ça peut être le cas pour la jeunesse actuellement dans les universités, etc. Mais en revanche, pour ce qui est, par exemple, des universitaires, ça va durer très longtemps, parce que si vous avez été recruté, comme le sont la plupart des gens maintenant, pour travailler sur ce genre de questions, enfin pour adhérer à ce genre de choses, il y en a pour 20 ou 30 ans, c'est-à-dire le temps qu'ils aient fini de leur carrière. Et le problème, c'est qu'ils sont recrutés aussi déjà des chercheurs qui vont être du même, ils vont être aussi peu curieux qu'eux, c'est-à-dire qu'ils vont réciter plutôt ces doctrines plutôt qu'essayer de faire des recherches originales, personnelles, individuelles. Donc ça, c'est une prime aussi à l'esprit de groupe, à l'esprit de chapelle, etc. Et donc ça, c'est plus inquiétant. Mais je sais pas, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Trump, pour ne pas le nommer, son action va arrêter ça, ou au contraire, est-ce que ça va renforcer certains qui vont dire, nos adversaires sont des Trumpistes et donc il ne faut pas les écouter. Donc c'est une vraie question.
J'avais préparé cette question, vous m'avez déjà répondu. J'ai encore deux questions. Est-ce qu'il y a une géopolitique de cette religion wokiste, et est-ce qu'il y a quelque chose de bon à garder?
Alors la géopolitique, oui, effectivement, il y a une vraie géopolitique, et d'ailleurs beaucoup de gens, enfin parmi mes lecteurs les plus enthousiastes, il y a des gens qui anciens ministres des Affaires étrangères, des gens comme ça, qui disent effectivement c'est un vrai problème au regard du monde entier, c'est-à-dire que tout le monde nous regarde avec étonnement, c'est-à-dire qu'il y a que les pays d'Europe, les États-Unis et l'Europe occidentale qui marchent dans cette histoire. Pour l'instant, que ce soit la Chine, les pays musulmans, l'Afrique, la Russie, les pays orthodoxes, etc., ne marchent pas là-dedans du tout et sont tout à fait affligés de ce qui se passe, sauf effectivement des militants islamistes qui eux, se servent de manipulent, disons, ces milieux woke pour essayer effectivement d'affaiblir la jeunesse d'Europe. On voit par exemple AJ+, la chaîne d'Al Jazeera, chaîne Qatari, s'adresse aux jeunes Européens pour leur expliquer ce que c'est que le genre, ce que c'est que l'écriture inclusive, etc. C'est tout à fait étonnant quand on sait leur explique ce que c'est que LGBTQIA, etc. Ce qui est très étonnant quand on sait le sort qui est réservé dans les pays islamiques à ce genre de catégorie. Voilà. Donc, ça n'est, les Chinois sont aussi tout à fait éberlués et se servent de ça souvent contre les États-Unis, en accusant les États-Unis de racisme. Poutine se sert de cet argument pour justifier son combat contre l'Ukraine, en les accusant d'être des adeptes de la théorie du genre, etc. Et même, d'ailleurs, à la rigueur, il y a des aspects religieux derrière. Bon, c'est une religion, au fond, pour les pays où il n'y a plus de religion vraiment effective. C'est-à-dire qu'il y a un auteur français, une collègue, Chantal Delsol, a écrit un bouquin qui s'appelle « La fin de la chrétienté ». Et effectivement, le christianisme en France, sauf du revival actuel dont on parle un petit peu, mais est plus ou moins mort, et à ce moment-là, cette religion prend la place d'autres religions. Et on voit que dans des pays, par exemple, plus d'empreintes catholiques, par exemple, comme l'Italie, ça marche moins bien qu'en France, ou dans les pays nordiques, ou comme Angleterre, etc. Donc je pense que c'est effectivement, et c'est un signe de faiblesse, un signe, effectivement, c'est ce que disait aussi Emmanuel Todd dans son dernier livre, il dit effectivement comment des pays à l'extérieur, à l'Occident, peuvent avoir des accords avec nous si on leur dit qu'un homme est resté une femme. Si on peut affirmer qu'une proposition aussi absurde qu'un homme est une femme est vraie, est-ce que notre parole peut être crue par des partenaires à l'extérieur de nous? Et donc je pense qu'il y a effectivement, moi j'avais beaucoup d'étudiants chinois qui étaient totalement catastrophés quand je leur expliquais ce qui se passait, et qui me disait, bon, ben, c'est pas grave, vous viendrez chez nous, on va continuer l'histoire de l'Occident d'une certaine manière. Bon. Donc, avec le problème, c'est que la démocratie manquera par contre. Donc, il y a effectivement un aspect géopolitique. Je pense que c'est un signe de faiblesse. Tout le monde interprète ça comme l'idée que c'est l'épuisement de notre civilisation, pour qu'on refuse, si vous voulez, l'héritage de notre culture, de notre histoire, de notre langue, etc. C'est quelque chose de très inquiétant. Donc je pense que peut-être qu'effectivement, le fait que le monde extérieur change peut nous réveiller d'une certaine manière. Ça, ce serait le premier point. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il y a de positif à garder? Bah, je dirais que c'est plutôt négativement. C'est-à-dire que ce à quoi ça me sert, c'est que ça me permet de me rendre compte à quel point je tiens à l'argumentation rationnelle. Je ne suis pas prêt à abandonner les valeurs de l'université, c'est-à-dire les valeurs d'échange, de libre d'argument. C'est-à-dire que je ne supporte pas effectivement que certains de mes collègues, par exemple, refusent de prendre, d'inscrire des gens en thèse avec sous leur direction parce que ces jeunes chercheurs ne sont pas d'accord avec eux. Ils veulent juste que les gens répètent leur discours, ce qui est tout à fait insupportable pour moi. Ça me renforce aussi dans l'idée que si on veut être antiraciste, effectivement, il faut justement faire en sorte de ne pas tenir compte de la couleur de peau des gens, mais il faut simplement essayer de leur faire valoir, apprécier leurs mérites, etc. Et je dirais que ça m'a peut-être réveillé personnellement sur les valeurs auxquelles je tiens. L'universalisme, je pense qu'effectivement, il y a des vérités universelles, scientifiques ou sur le modèle de la science, et qu'il y a aussi des idéaux universels. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout le monde les partage, mais ça veut dire que c'est des valeurs sur lesquelles j'ai envie, pour ma part, de continuer à me battre. Donc, parce que qu'est-ce qui va rester sinon Oui, à la rigueur, je dirais, effectivement, il y a certains domaines qui n'étaient pas très étudiés, mais enfin, ça avait quand même commencé à changer. L'histoire des femmes, l'histoire des milieux homosexuels, l'histoire des sciences indigènes, alors des savoirs indigènes, bon. Mais ça existait déjà, à mon avis. Simplement, donc il y avait déjà des historiens de la médecine africaine, arabe, etc. Mais l'étude était faite en général d'un point de vue purement descriptif, alors que là, maintenant, il y a l'idée qu'il y a le bon savoir qui serait le savoir des dominés, et le mauvais savoir qui serait celui des dominants. De ce point de vue, l'idée qui circule est tout à fait étonnante pour les étudiants en médecine de l'Université du Minnesota qui s'engagent, non pas plus serment à Hippocrate, mais s'engagent à combattre la binarité sexuelle, combattre le racisme blanc et à remplacer la médecine occidentale par les médecines indigènes. Bon, ça me semble aller contre tous les idéaux de la médecine et aussi de la science.
Et on peut risquer.
C'est ça le problème, et c'est que si vraiment, il y a des débats là-dessus qui sont étonnants, c'est-à-dire qu'effectivement, certains militants woke très radicaux disent oui, mais il faut bien sûr... Même pour choisir un neurochirurgien, il faut plutôt prendre celui qui a été discriminé jusque-là plutôt que de prendre le plus compétent. Bon, c'est la limite. Hein. Je disais à une amie cancérologue à Bordeaux qui lutte vraiment contre ça parce qu'effectivement, on lui dit qu'il faut recruter dans son département de cancérologie non pas les meilleurs, mais ceux qui ne sont pas assez représentés, donc des femmes, peut-être noires, etc. C'est là que ça devient grave, parce qu'effectivement, il ne s'agit plus d'histoire de sciences humaines, il s'agit effectivement de sauver des vies. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement des conséquences qui sont complètement absurdes et d'une certaine manière insupportables. Tout ça, ça fait penser à certains mouvements millénaristes, par exemple, qui espéraient un royaume de Dieu sur Terre, ou au Qatar, qui pensaient que le corps était inessentiel, etc. Moi, je pense que ça restera plutôt comme un mouvement, effectivement, sectaire, une espèce de secte qui aura eu quelques décennies de durée d'existence. Mais effectivement, ça peut quand même, par exemple, du point de vue géopolitique, ça peut nous mettre très mal en point. C'est-à-dire que si on arrête vraiment les recherches parce que celles ne sont pas conformes aux exigences woke, ben ailleurs dans le monde, les recherches continuent et on va se retrouver très mal en point.
L-am ascultat pe Jean-François Bronstein, profesor de filozofie contemporană la Universitatea Paris 1, Panthéon-Sorbonne, unde predă cursurile de istoria științelor, filozofia medicinei și etică medicală. Îl puteți întâlni pe 10 mai de la ora 16 la Ateneul Român, unde va participa la conferințele despre lumea în care trăim. Conferințele vor începe de altfel pe 10 mai de la ora 11 cu Nostalgia, povestea unei emoții periculoase, o conferință susținută de Agnes Arnold Foster, urmată de un dialog cu Alexandra Furnea. După amiază, deci, Jean-François Bronstein, a cărui conferință va fi urmată de un dialog cu Marian Voicu, duminică 11 mai de la ora 11, România în context european, moștenirea perioadei 1938-1940 în politica de azi, o conferință susținută de Oliver Jens Schmidt, urmată de un dialog cu Cristian Leonte și tot duminică de la ora 16, puterea limbajului, cum ne transformă mintea multilingvismul, o conferință susținută de Viorica Marian și urmată de un dialog cu Cătălin Ștefănescu. Festivalul de conferințe se va închide luni 12 mai, când la ora 19:30 va avea loc conferința Ce am crezut că știu, fără să fi știut și apoi am aflat, o conferință susținută de Horia Roman Patapievici, urmată de un dialog cu Gabriel Licean. Vă invit să găsiți mai multe detalii pe site-ul oficial lumeancaretrăim.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!